C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
On l'a effleuré hier, mais pendant qu'on nous étions en ondes, les excuses nous arrivaient d'Air Canada et pour les gens qui se sentent offensés des propos du président. Et malgré, évidemment, ce communiqué bien concocté, pour dire que la tempête s'est calmée. Donc, la question ce matin, est-ce que le PDG d'Air Canada devrait démissionner, devrait s'en aller, puis qu'on puisse revoir la politique linguistique du transporteur? Luc?
Non. Premièrement, c'est le PDG de la Chambre de commerce qui devrait démissionner. Parce que ça, il suffit pas de dire « je suis malheureux, c'est toi qui l'as invité, puis tu le savais ». Puis il l'a dit une semaine avant, qu'il parlerait pas en français, fait que...
Et tu me permets d'ajouter, ce matin, le commissaire aux langues officielles nous a dit, j'ai la veille averti les gens de la Chambre de commerce que c'était un paquet de troubles, tu sais. Autrement dit, là, voilà. Voici la mise en garde.
Bon, vois-tu, je savais pas ça. Ouais. Fait que là, le gars, lui, bon, ben écoute, on n'est pas content parce qu'il nous remet devant nos échecs, devant nos défaites. Il nous dit ça fait 15 ans que je parle pas l'anglais. Il faut vraiment que ce soit dans le français. Il faut vraiment que ce soit dans son univers pour pas s'être rendu compte de ce qu'il disait. Mais lui, ce qu'il voulait dire, c'est ben regarde comment c'est une ville sharp, puis le fun, parce que nous autres, on peut parler anglais, puis c'est une tolérance envers moi. J'ai jamais ressenti de pression. C'est sûr parce que la pression, elle est pas individuelle. Mais ce qu'il a découvert, on fait pas de la pression sur les individus parce qu'ils parlent anglais dans un souper ou parce qu'ils font, ils demandent. Ils veulent se faire servir en anglais dans un magasin. Là. La pression, c'est collectif. C'est un débat public. C'est lorsque la personne entend que responsable public prend la parole que là, il y a un problème. Et il a réalisé qu'il y a deux Québécois. Les Québécois sont divisés en deux. Ils sont pas uniformes, les Québécois. T'as ceux pour qui c'est extrêmement important et qui vont poursuivre l'affaire. Puis il y a pas ceux pour qui ils s'en foutent. Lui, vraisemblablement, il est entouré de gens qui s'en foutent, y compris son épouse, qui est francophone. Mais là, il a découvert qu'il y a un autre Québec. Un Québec qui, lui, il tient énormément. Mais sais-tu quoi? Ces anglophones, c'est pareil. Il y en a deux groupes. Il y a le groupe qui dit, ben, j'habite au Québec, puis je vais apprendre le français, puis je vais m'intégrer, puis j'en connais plein. Des Les Perrault qui travaillaient pour Globe and Mail, puis Leslie, comment elle s'appelle, la fille qui a fait le beau livre de cuisine, là. Ah, ça va me revenir. Puis Leslie Chesterman, puis il y en a plein.
Mais moi, je parlais tantôt de Terry DeMonte. Il a fait découvrir aux Anglo Harmonium. Tu sais, je veux dire,
c'est pas.
Puis Mitch Garber. Puis tu sais, la liste est longue de gens là qui sont très présents dans la communauté francophone.
Exactement. Et ces gens-là, ils ont dit, bon, on habite au Québec, puis on va l'apprendre, puis ça va nous permettre de découvrir un autre univers. Mais t'as l'autre, ben, gang, j'ai regardé hier le fil Twitter de, ouh, que ça fait peur. Hey, des gens qui disent, il a bien fait, moi, ça fait 46 ans que j'habite au Québec, j'ai jamais dit un mot en français. Je ne parle pas la langue française. Ou des gens qui disent, et à tous les trois, tweet, il y en a un qui dit « maudite gang de racistes ». Les Québécois sont racistes. Ils permettent pas à quelqu'un d'être une langue anglophone. Faut-il être raciste? Fait que les Québécois sont divisés, les anglophones sont divisés, mais publiquement, par exemple, il y a un fait qui reste. C'est qu'il y a des statistiques sur la disparition du français, la menace de la disparition du français à Montréal, puis qu'il faut faire des choses.
Nathalie.
Est-ce qu'il doit démissionner? Moi, je suis tentée de répondre oui. Et je le fais sans animosité aucune. Là. Je tente de regarder la situation de façon la plus objective. Mais avant d'aller plus loin, vous dire à quel point ce gars-là, Michael Rousseau, a mangé une voilée de bois vert. Là. Moi, j'ai pas souvenir de ça. Là. Écoute, il a pas mis le pied sur le ring de boxe qui a reçu le premier coup. K.O. le gars. Il doit encore se demander ce qui s'est passé. Non, mais honnêtement, ce qui est intéressant dans ce qui se passe, c'est que là, on n'est plus dans le débat anglo. Ben, en fait, je vais nuancer un peu. On n'est plus dans le débat contre souverainiste et fédéraliste. Je trouve que là, on va au-delà de la partisanerie politique et là, c'est tout le Québec francophone et aussi anglophone qui semble se mobiliser pour dire assez, c'est assez. Michael Rousseau est devenu une espèce de symbole où on dit, on en aura le pompon, là, c'est tolérance zéro maintenant à l'endroit des boss anglo, des boss anglophones qui méprisent, le Québec. Quel lapsus, ils pourraient maîtriser un peu plus la langue française, ils seraient pas dans le trouble. Mais oui, effectivement, alors, il y a un symbole très, très fort de ça, et parce que là, évidemment, vous avez vu le tollé suscité non seulement au Québec, mais au Canada, au Nouveau-Brunswick, c'est assez incroyable. Évidemment, on pointe du doigt aujourd'hui la Chambre de commerce Montréal-Métropolitain. Absolument, Luc. Elle mérite un blâme, la Chambre de commerce. Et je voyais tous les efforts que déploie son PDG pour dire, ben écoutez, là, il devrait apprendre le français. Non, 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 non. Vous avez pris la décision d'inviter un PDG qui ne parlait, qui allait prononcer son discours seulement en anglais. Alors, ils ont été complices aussi d'une certaine façon de cette espèce de désinvolture et de laisser aller. Et si cet épisode peut réveiller les administrateurs du conseil d'administration d'Air Canada, qui, je vous le rappelle, selon Gérald Filion, ce que l'on qui a été rapporté par Gérald Filion, chaque administrateur est payé 195 000 $ par année et le chef du conseil d'administration est payé 420 000 par année. Alors, à un moment donné, ils ont des obligations à respecter et je pense qu'ils ont faillir à la tâche. Et faillir à la tâche, ça veut dire qu'à partir de maintenant, ils doivent vraiment mettre le pied à terre et dire c'est terminé. L'ère de la désinvolture chez Air Canada pour ce qui est de brader la loi sur les langues officielles, c'est terminé. Ça ne peut plus être toléré. Lorsque le premier ministre du Québec, lorsque la ministre des langues officielles, lorsqu'à peu près tous les partis politiques à Ottawa et au Québec condamnent ce qu'il a fait, il y a vraiment, ça parle très, très fort. C'est pour ça, Luc, je me demande jusqu'où il va pouvoir résister à cette pression. Parce que là, écoute, c'est devenu une vague de fond, là,
oui, mais
cette affaire-là. Là.
C'est quand même drôle que ça se produise maintenant. On ne sait jamais quand est-ce qu'une tempête se produit, mais la gouverneure générale du Canada est une langue anglophone. C'est pas le premier, là. Je veux dire, des patrons d'entreprises qui ne parlent que l'anglais, il y en a un char puis une barge.
Ouais, mais attends une minute, c'est parce que nous, c'est nous qui payons les consommateurs d'Air Canada le salaire de M. Rousseau.
Oui,
là.
Je sais, mais la Banque Laurentienne, la Banque Laurentienne, une banque typiquement québécoise avec des sources, des racines québécoises, a engagé, et Dom Thor avait engagé un président anglophone. Il y en a eu chez Investissement Québec, il y en a eu chez Hydro-Québec des gens.
Mais je vais te dire, Luc, mais pourquoi maintenant? Probablement parce que Air Canada a un long historique en matière de non-respect de la loi sur les langues officielles. Il y a en moyenne, en 2015 et 2020, c'est ce que je disais, 85 plaintes. Ça, c'est les plaintes officielles, mais combien de consommateurs ne font pas de plaintes après un voyage où ça a été extrêmement frustrant? L'autre chose, c'est la façon dont Michael Rousseau s'est exprimé. Hein, qu'il puisse dire sans gêne aucune, ben ça fait 14 ans que j'ai à Montréal, j'ai pas besoin de parler le français. Cette espèce de mépris, de condescendance, c'est venu nous chercher dans nos tripes, tu sais, c'est pour ça qu'on réagit aussi vivement.
Ah, ben c'est ça, c'est parce que l'indignation est à la hauteur de notre impuissance, c'est ça l'affaire. C'est parce que on réagit, parce qu'on est des pas bons, parce qu'on est incapable de faire respecter nos droits. Fait que là, quand quelqu'un nous le dit dans notre face, on dit, ben coudon, au moins dis-le pas.
Ah non, mais non, mais Luc, on aurait pu choisir une autre option, celle de s'écraser, puis dire, ben finalement, savez-vous quoi? Plus ça change, plus c'est pareil.
Mais en fait, on a choisi tout le temps cette option-là. Mais regarde, la commission, la Chambre de commerce, elle avait choisi cette option-là. Quand elle a choisi de l'inviter, c'est parce qu'elle a réalisé qu'il y a tellement de présidents, de membres du conseil d'administration qui ne parlent pas le français, que souvent, c'est juste en anglais. Elle le savait, puis elle fait le dos rond. Puis là, elle réagit, mais on a choisi de s'écraser depuis des années, depuis des décennies, puis là, on réagit. Mais moi, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi on réagit là?
Moi, je pense que la différence, pour avoir vu beaucoup de commentaires hier, là, tu sais, ça coucaillez-vous, parlait pas français, puis mais il y a pas une fois que quelqu'un est venu nous dire en pleine face, regarde, non seulement je le parle pas
besoin de l'apprendre,
puis je l'apprendrai pas. Exactement. C'est comme un cumul. Puis en plus, c'est le patron d'une société qui est soumise à la loi sur les langues officielles. Fait que tu dis, si le PDG s'en fout carrément, on comprend pourquoi il y a une récidive.
C'est ça la leçon. Ben la leçon, c'est je suis
apprends
désolé.
Apprends le pas, mais fais-nous pas chier.
Exactement. Mais ça, c'est moi. Ben, c'est, moi, tu sous-gardes. Ouais, c'est ça.
Ben c'est ça.
Ben j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça cette affaire. Il suffit de payer ce que les Américains et les Anglais appellent lip service. Lip service, ça veut dire je vais faire semblant que je vais me corriger, puis je le corrigerai pas. Oui, je vais l'apprendre le français. Puis après, quand la porte du conseil d'administration est fermée, ben tu ne l'apprends pas. Lui a juste dit la vérité, les boys. C'est que je l'apprendrai pas, puis j'ai pas besoin de l'apprendre.
Non, mais tu vois, c'est pour ça que le communiqué qu'ils ont émis, là, ça ne convainc personne, là. Évidemment, il y a un travail de relations publiques qui a été fait, puis en fait, ce qu'on a tenté de faire, c'est de mettre un diachylon sur une plaie qui est devenue béante, mais parce que je ne vois pas honnêtement, là, comment, à partir de maintenant, là, OK, c'est sûr que les esprits on va tous se calmer un peu, là.
Avec la fin de semaine.
avec la fin de semaine, n'empêche que je regardais la charte du conseil d'administration, les directives qui doivent guider les administrateurs. Je me disais, oups, il y a certainement quelque chose qui a failli là du côté des administrateurs. D'ailleurs, je me disais, les deux Québécois qui sont sur le conseil d'administration, ils font leur meeting probablement toujours en anglais, eux. Est-ce qu'ils s'en offusquent? J'entendais François Legault dire, ben voyons donc, le grand patron d'Air Canada qui parle à ses employés uniquement en anglais, alors que le siège social est à Montréal. À tant de minutes, là, c'est comme... Puis l'autre chose qui nous insultait, c'est qu'il a dit que le français était la langue d'usage. Hello? Hello? Ben non, Monsieur Rousseau, la langue d'usage le français n'est pas la langue d'usage. Donc, tu vois, Luc, c'est un cumul de toutes ces... d'une déclaration, dans le fond, faite sans... Comment dire? C'est comme... Hein, on s'en fout un peu, c'est comme... hein? Alors, écoute, à un moment donné, tu comprends que...
Même à Québec, ils sont fâchés.
Oui, même, c'est vrai, ça c'est intéressant, parce que l'enjeu de la langue, de la protection de la langue française, c'est souvent accolé à la réalité de Montréal. Ah, c'est un problème de Montréal. Là, non, je vous jure, partout, on sent que les gens sont vraiment en colère.
OK, thank you very much. Let's take a break. We'll be back.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, très bien, rapport des commissaires pour la semaine, Nathalie.
Grosse semaine, M. Arcan. Oui. Ben, premier prix citron, sans surprise aucune, Michael Rousseau. Comme dirait notre ami Luc Ferrandez, un gros citron bien juteux, très, très acide pour M. Rousseau. Alors, voilà ma première observation. Deuxième observation de la semaine, de star à paria, la chute de Marie Montpetit, députée libérale du comté de Maurice-Richard, conspuée, condamnée sur la place publique. Ce qui est fascinant dans cette histoire-là, c'est que jamais elle n'a pu livrer sa version des faits. Et je m'interroge aujourd'hui, Dominique Anglade dit qu'elle a dit publiquement, la chef du Parti libéral, qu'elle a reçu une plainte. Est-ce que la plainte a été transmise à l'Assemblée nationale? Si oui, à quel moment elle l'a fait? Et sinon, pourquoi cette plainte n'a pas été déposée? Parce que vous savez ce que ça veut dire. S'il n'y a pas de plainte qui a été déposée à l'Assemblée nationale, donc il n'y aura pas d'enquête sur cette histoire-là. Et s'il n'y a pas d'enquête, Marie Montpetit ne pourra pas livrer sa version des faits telle qu'un processus d'enquête.
Mais là, elle refuse les entrevues parce qu'elle a été sollicitée par nous, par tout le monde. Là,
C'est normal, Paul. C'est normal.
Ben,
je pense qu'il a fallu qu'elle encaisse, premièrement,
oui.
Parce qu'elle, écoute, là, hein, on s'entend, là, méchant choc. Deuxièmement, elle va probablement accorder des entrevues éventuellement. Mais je pense qu'elle veut comprendre, selon moi, ma lecture, c'est qu'elle veut comprendre ce qui s'est passé. Parce que quand je parle de star à paria, là, écoute, il faut juste se rappeler qu'il était responsable du dossier de la santé, qui est le dossier le plus important lorsqu'on est dans l'opposition. Alors voilà pour mes observations. Troisième chose, il a vu la lumière, mesdames et messieurs. Bravo, ministre de la Justice. Je fais la vague ce matin, Simon-Jolin Barrette. Je salue sa sagesse. Il n'y a point d'ironie, de cynisme dans ma voix, rassurez-vous. Oui, je salue sa sagesse parce qu'il s'est rendu finalement aux arguments de la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau. On en a parlé à quelques reprises. Il voulait proposer un tribunal spécialisé, créer une nouvelle instance à l'intérieur du système de justice. Et là, finalement, il s'est rendu aux arguments de la juge en disant on ne peut pas créer un nouveau tribunal. Par contre, on va créer une division qui permettra aux victimes de se faire entendre. Fait que ça rejoint ce que la juge en chef s'emploie à mettre en place actuellement. Alors vraiment, bravo au ministre de la Justice. La citation de la semaine, pour moi, revient à un médecin, il s'appelle Dr. Vin Kim Nguyen, qui a déclaré dans le cadre de l'enquête de la coroner Gamel sur les décès en CHSLD, des résidents des CHSLD auraient pu être soignés, mais ils ont plutôt été euthanasiés. J'avoue que c'est une phrase qui a frappé fort. Et je salue le courage de dire les choses, mais on n'a pas fini de faire l'autopsie de cette crise qui nous a tous marqués durant la pandémie. Et on le doit bien pour nos pauvres personnes âgées qui sont décédées dans des conditions absolument horribles. Et un dernier commentaire, vous avez peut-être vu ça cette semaine passée. Lundi, CNN a publié un reportage sur des familles afghanes qui, confrontées à des problèmes de famille, littéralement, là, elles n'ont rien à manger. Exactement, ils vendent leur petite fille. On a vu le cas de cette petite fille de 9 ans à la télé, mais sachez qu'il y en a d'autres, beaucoup d'autres. Il y a même une petite fille de 2 ans qui risque d'être vendue. 2 ans, imaginez. Elles sont vendues entre 1100 et 2500 $. Donc, des petites filles dont l'avenir demeure plus qu'incertain. C'est à pleurer. Lorsque j'ai vu cette nouvelle, je me suis dit, mais my God, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça fait le tour du monde, évidemment. Et là, les gens se demande comment on peut aider ces familles à éviter ce qu'elles font. Ben là, il y a la Croix-Rouge qui a mis sur pied une campagne justement pour tenter de rejoindre toutes ces familles qui souffrent de la faim actuellement en Afghanistan. Alors, c'est en quel, on peut pas s'empêcher de dire, mais quel ravage, quel drame, quel comment dire, fiasco en fait. Ah,
au-delà au-delà des mots, hein.
Au-delà Monsieur Luc.
Donc, Legault va perdre 10 livres à Glasgow. Parce que... il court partout avec les drapeaux du Québec.
Le prince Charles.
Ah ouais, ouais. Le prince... Ah, écoute, il a rencontré le prince Charles.
C'est le prince Charles, ça a l'air qu'il voulait le rencontrer en plus.
Ben oui, parce que il y a juste trois pays qui ont décidé qu'ils feraient plus de forage pour le pétrole, puis on en fait partie. Mais
prince Charles... On n'est pas un pays en passant, monsieur.
Ah ben oui, oui, oui. Ben, c'est vrai qu'on n'a pas le drapeau, on n'a pas le drapeau. Puis on n'a pas l'équipe de hockey non plus, ça m'a toujours fâché, mais bon. Donc, j'ai ici la transcription, moi, de la rencontre entre Legault et le prince Charles. Puis le prince Charles s'avère extrêmement diplomatique. Il a dit, c'est la troisième fois aujourd'hui que j'entends parler des liens qui unissent nos deux nations. Excusez-moi, je suis arrivé par retard. Je passais par la troisième porte pour arriver. Prendrez-vous un troisième thé? mais il n'était pas allé au-delà de ça dans ses critiques. Finalement, M. Legault a réussi à ne pas trop parler du troisième lien et à parler des vrais projets constructifs. Faut avouer qu'il y en a plusieurs, l'achat des autobus, etc. Et puis, c'est tout à son honneur. Puis, je pense qu'il évolue dans le dossier puis qu'il tente de rester dans sa philosophie de base qui est, oui, à la lutte à l'environnement, mais non à la contrainte puis non à l'absence de développement économique. Il faut continuer. Il va réaliser un jour que c'est impossible. Mais en tout cas, toujours est-il qu'il fait des gros efforts. Par contre, Trudeau, lui, en fait des efforts extraordinaires, je trouve, beaucoup plus convaincants. La présence de Guilbeault peut-être à ses côtés, vraiment, il a fait un discours remarqué sur la nécessité de taxer le carbone. Et ça, c'est quand même, ça, c'est une vraie contrainte. Ça, là, si tous les pays se mettent à taxer le carbone, il y a seulement 20% des pays qui font des efforts réels dans la taxation du carbone. Le Canada en fait des réels, va en faire des réels. Il a aussi déclaré qu'il n'y a plus de subventions pour le pétrole. Il y a 10 milliards de subventions pour le forage de pétrole au Canada. Et aussi un cap sur la production de GES émis par l'industrie pétrolière. Donc, ce sont des vraies propositions. Alors, bravo à nos deux chefs de nation. À Glasgow. Ça n'a pas calmé Greta Thunberg, par exemple. Je ne sais pas
mais
si vous avez vu les subventions.
C'est ça.
Elle a dit « You can shove your climate crisis up your ass ». Vous pouvez la mettre à l'endroit où le soleil ne brille jamais. Et, elle a aussi dit dans une réunion que c'était du greenwashing, mais elle a choisi sa réunion, par exemple. C'est une réunion où c'est un regroupement de tous les fonds de placement et les banques qui ont dit qu'elles allaient investir dans les projets verts à travers la planète. Tenez-vous bien, représente 130 trillions de dollars d'investissement.
C'est fou,
ça commence à être gros, là. Ça, c'est ouais. du huge. Puis elle, la petite Thunberg de ses 5 pieds de haut, rentre là-dedans et elle dit « Stop the greenwashing ». Fait que là, c'est quand même vrai parce que ce que la plupart des entreprises pétrolières veulent faire, c'est émettre, continuer de polluer, mais payer des crédits à des entreprises qui polluent moins qu'elles. C'est ça le principe même de la taxe de carbone.
Ben oui.
Mais évidemment, si tout le monde fait ça, à un moment donné, on va manquer de crédit. Là. C'est le cas parce qu'il y a une entreprise, une ONG française qui a calculé que 95% des pétrolières ont l'intention de continuer de forer. Et là-dedans, 50% dans des projets extrêmement polluants, les gaz de schiste, les sables bitumineux. Fait qu'on s'en va nulle part avec ça. Le maudit Publisac. Il va-tu mourir, ce maudit Publisac-là? Écoute.
Il y en a qui vont dire non, au lieu qu'il y a des gens qui
sont là. Si tu veux partir un débat de société, le Publisac en est un, je peux te dire ça, là.
Je le sais. Et d'ailleurs, j'en parle parce que M. Coderre, dans les contrats qu'il a fait de consultant, un de ses gros clients, c'était Transcontinental. Par ensemble, semble-t-il, c'est pour la question du Publisac. C'est 11% de volume de déchets dans les centres de tri. 11%. Puis les deux raisons évoquées sont les deux mêmes tout le temps. La liberté d'expression, on a le droit de faire de la publicité. La publicité consiste en une forme d'information nécessaire pour bien des gens. Pour faire un choix éclairé dans les produits qu'ils vont acheter, d'une part. Puis d'autre part, si vous enlevez ça, ben il y a tout autant un 5 à 10% de gens qui n'ont pas de lien Internet, de facilité à aller sur Internet, puis qui vont... souffrir de la disparition du Publisac. Fait que je me demande bien qu'est-ce que Coderre a pu donner comme information cruciale que Transcontinental ne l'avait pas, parce que moi, ça fait 20 ans que j'en entends parler. Quand j'étais au conseil, il y avait des représentations de Transcontinental très fréquemment, leur lobbyiste, très fréquente, pour dire c'est la patente la plus utile au monde, il faut absolument l'avoir. Il faut... Mais moi, je souhaite sa mort ardemment, et j'espère que ça va se produire là, quand même.
Mais... T'as vu, Luc, ma Valérie Plante, là, la presse qui révèle ce matin qu'elle a mis de côté une décision là depuis mai là, pour éviter que ça se fasse partie de l'élection actuellement. Là. T'as vu ça, là, ce matin?
Sur le Publisac?
Oui, oui, exactement, tout à fait, c'est
ça. Je l'avais pas vu, excuse-moi.
Oui, tout à fait, absolument. Fait que oui, il y a Denis Coderre, tu t'interroges, mais il y a aussi Valérie Plante, là, qui, sachant que effectivement que c'est un sujet extrêmement sensible, a décidé de mettre ça sous le tapis plutôt que d'en parler durant la présente campagne électorale.
Voilà, représentative de notre société. On se rappelle que c'est la même chose avec les pages jaunes. Hein. Pendant des années, non, on ne peut pas couper les pages jaunes, la distribution des pages jaunes, c'est donc important pour tout le monde, jusqu'à temps que ça meure de sa belle mort. La même chose va arriver au Publisac, ça va mourir, ça, tout seul, mais on pourra jamais le tuer.
C'est faux.
Mais je te jure, là, j'avais fait pas une, mais je sais plus combien de tribunes téléphoniques sur le Publisac. Ça polarise autant que les chiens.
C'est fou.
C'est fou raide. Je te le dis, là, parce que c'est les gens, puis là, c'est les plus pauvres qui ont pas d'ordinateur.
C'est tout ça, là.
Puis c'est une série d'arguments, là, que...
Il y en a, je sais, mais quand on dit qu'on n'est pas prêt à changer, là, t'en as un exemple, on n'est pas prêt à changer, on ne changera jamais. Si on n'est pas capable de se débarrasser du Publisac, on ne changera jamais.
Bon, puis le troisième lien, veux-tu finir avec ça?
Le maudit troisième.
OK, hey, parfait.
Air Canada l'a assis à troisième rangée dans l'avion, c'est pas permanent.
Bon week-end.
C'est 23.